Chapitre 17. Kara passa la tête par la porte, tendant assez le cou pour que le vent fasse volter sa natte blonde.
« J'ai bien compris ce que vous voulez dire, » demanda-t-elle. « Si Richard nous guide sur la bonne branche, nous survivrons, et sinon... »«
Ce sera le grand vide, » acheva Nathan.
Il se tourna vers Nietzsche et lui posa une main sur l'épaule.
« Tu saisis en profondeur ce que j'essaie de te dire ?»«
Nathan, je n'ai pas lu toutes les prophéties loin de là, mais je connais parfaitement l'enjeu. Des sœurs de l'obscurité ont remis dans le jeu les boîtes d'Orden. Si elles finissent par l'emporter, je ne vois pas ce qui pourrait en sortir de bon. Et à première vue, Richard est le seul en mesure de les arrêter. »«
C'est ça, oui, » confirma Nathan.
« Voilà pourquoi... Anna et moi avons attendu sa naissance pendant 5 siècles. Il est le guide censé nous empêcher de suivre le chemin fatal qui mène au grand vide. S'il y parvient, ce qui est loin d'être fait, il devra nous conduire à la bataille finale. Nous savons tous ça depuis longtemps. Pareillement, nous nous doutions depuis toujours que les boîtes d'Orden étaient l'ultime bifurcation conduisant à la fourche fatale.
Nietzsche sursauta soudain. Elle venait enfin de tout comprendre.
« Et c'est là que vous avez commis l'erreur, »
dit-elle, comme si elle ne parlait à personne en particulier. Anna tendit à son tour le cou.
« Quoi ? Vous avez suivi le mauvais chemin sur l'arbre des prophéties, »
répondit Nietzsche alors que toutes les pièces du puzzle se mettaient en place dans son esprit.
« Vous aviez mesuré l'importance des boîtes, mais votre chronologie était fausse. » En conséquence, vous vous êtes égaré sur la mauvaise piste. À tort, vous avez cru que Darkenral, en utilisant les artefacts, générerait la bifurcation ultime. Bref, vous pensiez que c'était lui qui nous précipiterait vers le grand vide.
Accablé par la gravité de cette erreur, Nietzsche se tourna vers l'ancienne dame abbesse.
Anna, vous avez cru devoir préparer Richard à cette menace-là. Pensant que nous étions déjà face à la fourche potentiellement mortelle, vous avez volé le grimoire des ombres recensées, le confiant à George Cypher pour qu'il la remette à Richard le moment venu. Pour vous, Anna, et également pour Nathan. La bataille finale, c'était le duel de Richard contre Darkenral, et vous avez cru lui fournir les armes qu'il lui fallait pour vaincre. Mais vous vous êtes engagé sans le savoir sur une branche morte des prophéties. Vous avez préparé Richard, certes, mais pour la mauvaise bataille. Au lieu de l'aider, vous l'avez poussé à se tromper, l'incitant à détruire la barrière qui interdisait à Jagang d'attaquer le Nouveau Monde. Ainsi, l'ordre impérial est devenu la menace contre laquelle les prophéties vous mettaient en garde depuis le début. À cause de vous, les sœurs de l'obscurité ont pu s'emparer des boîtes d'Orden, et toujours par votre faute, le gardien du royaume des morts dispose désormais de puissantes alliées. Sans vos interventions, rien ne serait arrivé.
Nietzsche dévisagea longuement la dame abbesse à la retraite. Ce qu'elle venait de comprendre lui donnait le tournis.
Vous êtes à votre corps défendant la cause de tous ces malheurs. En voulant utiliser les prophéties pour nous épargner un désastre, vous avez œuvré à leur réalisation. Sans vos interférences, rien n'aurait été possible.
Il semble que nous...
commença Anna, l'air sinistre.
Tout ce travail, cette attente longue de plusieurs siècles, cette planification rigoureuse, tout ça pour en arriver à un incroyable gâchis. On dirait bien que je suis le soutien dont les prophéties ont besoin à cause de ce que vous avez fait.
Eh bien, même si le trait est outré et la simplification poussée à l'extrême, je veux bien reconnaître que tu n'as pas totalement tort.
Toute sa vie, Nietzsche avait tenu Anna, la terrible dame abbesse, pour une femme infaillible toujours prompte à dénoncer à juste titre les erreurs des autres. Désormais, elle la voyait sous un tout autre jour.
« Vous vous êtes trompé. Oui, vous aviez tout faux. Pendant que vous vous acharniez à faire de Richard un sauveur, vous êtes devenu sans le savoir le principal instrument de notre perdition. »«
Si nous n'avions pas... »
tenta de dire Anna.
« Oui, d'accord. Nous avons commis des erreurs, »
admit Nathan, coupant la parole à sa vieille complice.
«
Mais nous ne sommes pas les seuls, me semble-t-il. N'ai-je pas devant moi une femme qui s'est battue toute sa vie pour les valeurs de l'ordre impérial, puis qui s'est abaissée à devenir une sœur de l'obscurité? Dois-je douter de tous tes propos, sous prétexte que tu n'étais pas toujours dans le vrai, très loin de là? Nos rares erreurs suffisent-elles à disqualifier tous nos actes sur une durée de près de 10 siècles? Et si nos erreurs n'en étaient pas, en fin de compte? Tu sais combien les prophéties aiment emprunter des chemins détournés. Tu étais peut-être de tout temps destiné à aider Richard, et ce que tu appelles « nos erreurs » a pu simplement servir à te conduire jusqu'à lui dans les meilleures conditions possibles.
Le libre arbitre est une variante essentielle des prédictions, dit Anna. Sans la série d'événements dont nous sommes effectivement responsables, où serais-tu en ce moment, Nietzsche? Dans quel camp combattrais-tu? Aurais-tu simplement rencontré Richard?
L'ancienne maîtresse de la mort refusa d'entrer dans ce jeu pervers.
Au bout du compte, insista Anna, combien de gens seront sauvés comme toi parce que nous avons influencé les événements d'une certaine façon?
On peut aussi postuler, ajouta Nathan, que si nous n'avions pas agi ainsi, à tort ou à raison, ce n'est pas le propos. Les prophéties auraient trouvé d'autres moyens d'en arriver exactement là où nous en sommes. Quand on sait analyser une arborescence, il semble évident que les événements actuels devaient se produire dans tous les cas de figure.
Comme l'eau qui coule toujours vers le bas?
Demanda Kara.
Exactement, approuva Nathan. Jusqu'à un certain point, on peut dire que les prophéties s'autocorrigent. Nous pensons comprendre les divers détails, mais le tout nous échappe, et nos interventions, si maladroites qu'elles soient, servent souvent des intérêts qui nous dépassent, mais que les prédictions savent intégrer à leur cours inexorable. Dans cet ordre d'idées, on pourrait prétendre que toute tentative d'influer sur les événements est une perte de temps, mais les prédictions sont là pour servir, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi existeraient-elles? En fait, ce sont elles souvent qui nous poussent à intervenir. Bien entendu, c'est risqué. Le génie est de savoir quand et où agir. C'est un art difficile à maîtriser, même pour un prophète.
C'est probablement parce que nous avons conscience de nos erreurs, dit Anna, que ta façon de faire nous a tellement bouleversés. Remettre dans le jeu les boîtes, au nom de Richard. Sais-tu seulement que tu as joué avec un des éléments essentiels des prédictions? Pas un détail, mais quelque chose qui n'est pas loin d'être la clé de tout. Comment peut-on faire montre d'une telle arrogance?
Nietzsche n'avait pas voulu prendre la dame abbesse de haut, mais la situation lui avait échappé. Contrairement à ce qu'insinuait Anna, elle ne s'était jamais crue infaillible, bien au contraire. Toute sa vie, elle avait eu le sentiment d'être une personne inférieure, voire malfaisante. Sa mère, le frère Narev, puis l'empereur Jagang avaient toujours insisté sur ses défauts, une imperfection consubstantielle pour être plus précise. Écrasée par son insignifiance, elle avait tout bêtement été surprise que la dame abbesse ait pu avoir des faiblesses si humaines.
« Je ne voulais pas être agressive, » dit Nietzsche, « mais je vous croyais incapable de vous tromper. » Même si je ne souscris pas au jugement que tu portes sur 5 siècles d'efforts et de doutes, je le répète, nous commettons tous des erreurs. C'est la façon de les affronter qui change tout. Si on se voile la face, la bévue n'est jamais corrigée, et ses conséquences peuvent devenir dramatiques. Cela dit, une personne qui baisserait les bras parce qu'elle s'est trompée, même lourdement, n'irait pas très loin dans la vie. Dans ton analyse, tu as omis de nombreux éléments, sans parler de ceux que tu ne peux pas connaître. Tu n'as pas entièrement tort, mais tu relis les faits d'une manière beaucoup trop simpliste. L'ennui, c'est que la plupart de tes postulats reposent sur des connexions abusives.
Nathan se racla la gorge comme s'il allait intervenir. Anna rectifia immédiatement le tir.
« Je ne cherche pas à dire que nous avons été parfaits. » À certains moments, nous nous sommes fourvoyés, et tu as très justement dénoncé nos erreurs les plus flagrantes, celles que nous nous efforçons de corriger, bien entendu.
C'est bien beau tout ça, s'impatienta Kara. Mais qu'en est-il de cette histoire de grand vide? Les prophéties assurent que le seigneur Ral doit nous conduire à la bataille, mais en même temps elles nous promettent un plongeon dans le néant. Ce n'est pas cohérent. On dirait que les prédictions reconnaissent implicitement qu'elles ne peuvent, rien prévoir.
Les morts de Sith s'y mettent aussi,
grogna Anna.
Bientôt le monde entier sera expert en prophétie.
Plus conciliant, Nathan se tourna vers Kara.
Comprendre la relation entre les événements et les prédictions est un exercice très compliqué. Les prophéties et le libre arbitre sont constamment en guerre, tu dois le comprendre. La tension est permanente. Pourtant, une interaction existe également. Les prédictions sont une variante de magie, et toute magie a besoin d'équilibre. L'ennemi juré des prophéties, le libre arbitre, est également le contrepoids qui leur permet d'exister.
Oui, c'est très logique,
dit Kara, toujours campée dans l'encadrement de la porte.
Si vous avez raison, ça veut dire que ces deux instances se neutralisent, tout simplement.
Le prophète brandit sentencieusement un index.
Non, pas du tout, justement. Elles sont interdépendantes, certes, mais aussi radicalement antithétiques. Pense aux deux variantes de la magie. Elles s'équilibrent selon un schéma très simple, la création et la destruction, la vie et la mort. L'équilibre est la clé de voûte de la magie. Sans leur parfait opposé, à savoir le libre arbitre, les prophéties ne pourraient pas exister. Dans ma profession, le plus dur est de faire la distinction entre le destin et la volonté, en d'autres termes, entre la prédétermination et la liberté.
« Vous êtes un prophète, » dit Kara, « et vous croyez à la liberté? C'est absurde. »
« La mort neutralise-t-elle la vie ? » ?»«
Non. Elle la définit en étant son opposé, bien au contraire. Et ce faisant, elle augmente sa valeur. »
La mort de Sith ne parut pas du tout convaincue.
« Je ne vois toujours pas quelle place peut avoir le libre arbitre au royaume des prophéties. »
« Pense à Richard. Il ignore superbement les prophéties, et ce faisant, il leur apporte l'équilibre dont elles ont besoin. »
Il m'ignore aussi à l'occasion, et chaque fois il se retrouve dans les ennuis jusqu'au cou.
Voilà qui nous fait un point commun,
dit Anna à la mort de Sith.
Quoi qu'il en soit,
conclut Kara,
Nietzsche a eu raison sur toute la ligne, pas grâce aux prophéties, mais en exerçant son libre arbitre. C'est très exactement pour ça que le seigneur Ral l'apprécie.
J'admets que ce raisonnement se tient,
dit Nathan.
Même si ça me rend très nerveux, je reconnais que nous devons de temps en temps laisser Richard agir selon ses propres critères. Nietzsche lui a peut-être fourni les outils dont il avait besoin pour être vraiment libre.
La magicienne n'écoutait plus depuis un bon moment. L'esprit ailleurs, elle se tourna vers Nathan.
Je veux voir la tombe de Panisral. J'ai compris pourquoi elle s'écroule.
Dans le lointain, un rugissement collectif retentit, attirant l'attention du sorcier et de ses compagnes.
« Que se passe-t-il ? »
demanda Kara. Nietzsche plissa les yeux pour mieux observer les soudards au cœur des plaines.
« Ce sont des cris de supporters lors d'une rencontre de Jala. L'empereur a besoin du jeu de la vie pour faire patienter les soudards. Les règles en vigueur dans l'armée sont extraordinairement cruelles et brutales. » Elles permettent à Jagang de satisfaire la soif de sang des soldats.
Nietzsche se remémora la passion de l'empereur pour le Jala. Décidément, il savait comment contrôler et influencer les pensées de ses sujets. Pour leur faire oublier leur vie minable sous le règne éclairé de l'ordre, il accusait de tous les maux les infidèles qui refusaient de croire aux balivernes de la confrérie. Les incroyants du Nord étaient bien entendu les pires, et c'était pour ça que les troupes de l'ordre menaient une impitoyable campagne de réhabilitation. Cette vision des choses interdisait aux citoyens de l'Ancien Monde toute velléité de contestation. Nietzsche savait de quoi elle parlait. Au temps où elle était la maîtresse de la mort, elle avait pratiqué cette politique. Les égoïstes étant rendus responsables de tout, il suffisait d'accuser un opposant d'individualisme pour le disqualifier. En créant ainsi de toutes pièces des oppresseurs imaginaires, Jagang obtenait tout le soutien dont avait besoin sa machine de guerre. La notion de responsabilité jetée aux orties, toutes les faiblesses et les vilenies étaient mises sur le compte des épreuves qui frappaient les innocents citoyens. Et d'où venaient ces épreuves? Des monstres cupides qui refusaient de servir les autres, bien entendu. Ainsi, la moindre petite contrariété devenait une bonne occasion de crier haro sur l'ennemi. En réalité, Jagang avait besoin que les populations libres et prospères disparaissent, parce qu'elles étaient la preuve vivante que l'ordre mentait sur tous les points. Pour le tyran, il n'y avait pas pire ennemi que la vérité. Le mensonge, en revanche, le servait à merveille. Une fois convaincus de la monstruosité de leurs adversaires, les habitants de l'ancien monde ne pouvaient plus décemment se plaindre du coût exorbitant de la guerre. Le Jala servait à occulter les derniers doutes des citoyens. Dans les cités, une version plus civilisée du jeu permettait de canaliser les émotions et les pulsions du peuple vers des événements dépourvus d'importance. De plus, soutenir une équipe, parfois en allant jusqu'au meurtre des supporters ennemis, était un excellent moyen d'acquérir sans le savoir une mentalité belliqueuse. Pour la formation des jeunes, c'était un élément clé. Au sein de l'armée, le Jala aidait les soldats à oublier leurs pénibles conditions de vie. Pour un public de militaires, le jeu devait être plus viril et les règles ne comptaient plus vraiment. La violence de ces compétitions étant un parfait exutoire pour de jeunes hommes frustrés, les tournois se multipliaient. Sans ce puissant dérivatif, l'empereur aurait eu du mal à maintenir la discipline et à garder sous son contrôle des millions d'hommes. Pour asseoir son autorité, Jagang disposait de l'arme absolue, sa propre équipe, bien entendu, imbattable. Ses joueurs, les meilleurs du monde, étaient les représentants parfaits de la puissance et du pouvoir de l'empereur. On les redoutait, et cette crainte, bien entendu, finissait par auréoler le chef suprême de l'ordre. À travers son équipe, il tissait un lien presque intime avec ses hommes tout en leur démontrant à chaque instant son écrasante supériorité. En vivant près de lui, lorsqu'elle était sa reine esclave, Nietzsche avait découvert que Jagang, au-delà de tout calcul, était bel et bien passionné par le Jala. À ses yeux, le combat était l'essence même de la vie. Dès qu'il ne faisait plus la guerre, l'empereur compensait en s'investissant dans son jeu favori. Ainsi, jamais son agressivité ne risquait de retomber. Et puisqu'il avait formé la meilleure équipe de toutes, un groupe universellement redouté, il se prenait pour le plus grand expert et maître du Jala. Pour lui, ce n'était plus un jeu, mais une extension de son être. Accablé, Nietzsche tourna le dos au camp de l'ordre dont elle ne supportait plus la vue. Pendant combien de temps avait-elle détesté en secret l'horrible jeu dont les soudards se délectaient? Et maintenant, ces brutes assoiffées de sang assiégeaient le palais du peuple. Une fois revenue dans le couloir, la magicienne attendit que Nathan ait refermé la porte, puis elle annonça calmement « Il faut que j'aille dans la tombe de Panisral. »«
Si tu le dis, » marmonna le prophète.
« Eh bien, en route. »«
Une minute, »
s'écria Anna.
« Nathan, je sais que tu n'aimes pas descendre dans cette crypte. Verna et Adi doivent nous attendre. Pourquoi n'irais-tu pas les rejoindre pendant que je guide Nietzsche jusqu'au tombeau ?»
Le prophète eut un regard soupçonneux. Il ouvrit la bouche, mais un regard lourd de signification de sa vieille complice le réduisit au silence.
« Oui, c'est une bonne idée. Kara et moi allons retrouver ces jantes d'âme. »
Quand la mort de Sid croisa les bras, le cuir de son uniforme rouge craqua sinistrement.
« Je resterai avec Nietzsche, » déclara-t-elle. « En l'absence du seigneur Hall, ma mission est de veiller sur elle. » « Burdine et Nida ont besoin de ton avis sur la sécurité du palais, » dit Anna.
Voyant que ça ne faisait ni chaud ni froid à la mort de Sid, elle ajouta
« Pour le retour de Richard, elles veulent qu'il ne risque rien lorsqu'il reviendra parmi nous. »
Nietzsche n'avait jamais rencontré quelqu'un qui fût aussi méfiant que les morts de Sid. Sans cesse sur leur garde, ces femmes envisageaient systématiquement le pire. Selon toute vraisemblance, Anna voulait avoir une conversation privée avec elle, Pourquoi ne le disait-elle pas simplement à Kara? Sans doute parce qu'une vérité si inoffensive ne parviendrait pas à la faire changer d'avis.
« Tu peux y aller, mon ami, »
dit Nietzsche.
« Accompagne Nathan, moi je vous rejoindrai très vite. »
« Où ça ?» demanda Kara à Anna.
« Tu connais le réfectoire situé entre les quartiers des morts de cité et la cour de dévotion ombragée par un petit bosquet intérieur.
Bien entendu.
C'est là que nous avons rendez-vous avec Verna et Adi. Nous vous y retrouverons après la petite visite de la tombe. »
Nietzsche acquiesçant frénétiquement, Kara finit par rendre les armes. Pour cette fois.